Chapitre 2. La séparation. Le père Caillot, voyant que des deux Besson, on lui amenait le plus fort et le plus diligent, fut tout aise de le recevoir. Il savait bien que cela n'avait pas dû se décider sans chagrin. Et comme c'était un brave homme et un bon voisin, très ami du père Barbeau, il fit de son mieux pour flatter et encourager le jeune gars. Il le mena ensuite avec lui pour lier les bœufs, et il lui fit connaître la manière dont il s'y prenait. De fait, Landry n'était pas novice dans cette besogne-là, car son père avait une jolie paire de bœufs qu'il avait souvent ajustée et conduit à merveille. Il était content de montrer qu'il n'était pas maladroit et qu'on n'avait rien de nouveau à lui apprendre. Son père ne manqua pas de le faire valoir, et quand le moment fut venu de partir pour les champs, tous les enfants du père Caillot, garçons et filles, grands et petits, vinrent embrasser le Besson, et la plus jeune des filles lui attacha une branchée de fleurs avec des rubans à son chapeau, parce que c'était son premier jour de service et comme un jour de fête pour la famille qui le recevait. Avant de le quitter, son père lui fit une admonestation en présence de son nouveau maître, lui commandant de le contenter en toutes choses et d'avoir soin de son bétail, comme si c'était son bien propre. Là-dessus, Landry, ayant promis de faire de son mieux, s'en alla au labourage, où il fit bonne contenance et bon office tout le jour, et d'où il revint ayant grand appétit, car c'était la première fois qu'il travaillait aussi dur, et un peu de fatigue est un souverain remède contre le chagrin. Pendant ce temps, à la ferme, Sylvinet s'était réveillé, et ne voyant point son frère à son côté, se douta de la vérité, même s'il ne pouvait croire que Landry pouvait être parti comme cela, sans lui dire adieu. Et il était fâché contre lui au milieu de sa peine. « Qu'est-ce que je lui ai donc fait ? » disait-il à sa mère. « Et en quoi ai-je pu le mécontenter ? Il m'avait promis de ne pas s'en aller sans me dire adieu. » « J'ai fait la volonté de ton père, » répondit la mère Barbeau. Et elle dit tout ce qu'elle put s'imaginer pour le consoler. Il ne voulait rien entendre, et ce ne fut que quand il vit qu'elle pleurait aussi, qu'il se mit à l'embrasser, à lui demander pardon d'avoir augmenté sa peine. Le soir même, Sylvinet alla à la priche avec son père, qui voulut l'accompagner. Il était comme fou d'aller embrasser son Besson, et il n'avait pas attendu l'heure du souper, tant il avait hâte de partir. En arrivant devant la ferme, il s'attendait à ce que Landry vienne au-devant de lui, et il s'imaginait déjà le voir accourir. Mais Landry, quoi qu'il en ait eu envie, ne bougea pas. Il craignait d'être moqué par les jeunes gens et les gars de la priche pour cette amitié qui passait pour une sorte de maladie. Si bien que Sylvinet le trouva à table, buvant et mangeant comme s'il avait été toute sa vie avec la famille Caillot. Aussi, quand Sylvinet vint se jeter sur lui, l'embrasser tout en pleurant et se serrer contre lui, comme un oiseau se pousse dans le nid contre son frère pour se réchauffer, Landry fut fâché à cause des autres. Il voulait avoir l'air plus raisonnable que son frère, et pendant la veillée, il lui faisait de temps en temps signe de ne pas être trop expansif, ce qui étonna et fâcha grandement Sylvinet. La semaine se passa de même, Sylvinet allant voir Landry tous les jours, et Landry s'arrêtant avec lui un moment ou deux quand il venait du côté de la Bessonnière, surnom de la ferme du père Barbeau, depuis la naissance de ses jumeaux. Landry prenait de mieux en mieux son parti, tandis que Sylvinet ne le prenait pas du tout et comptait les jours, les heures, comme une âme en peine. Aussitôt qu'on n'avait plus les yeux sur lui, il s'en allait tout seul et se cachait si bien qu'on ne savait où le chercher. Il restait des heures à se creuser la cervelle, à énumérer tous les chers souvenirs de son bonheur passé. Des choses sans importance pour les autres, mais qui pour lui étaient toute sa vie. Comme il devenait pâle, dormait mal et ne mangeait presque plus, sa mère était bien affligée et ne savait que faire pour le consoler. Landry, conseillé par son père et par son maître, et aussi par sa mère, ne manquait pas de raisonner son pauvre Besson. Mais Sylvinet ne se défendait point, promettait tout, sans parvenir à surmonter sa tristesse. Il y avait dans sa peine quelque autre chose qu'il ne disait pas, qu'il n'osait s'avouer. Il était jaloux de Landry. Il était content, plus content que jamais il ne l'avait été, de voir qu'un chacun le tenait en estime et que ses nouveaux maîtres le traitaient avec autant d'affection que s'il avait été l'enfant de la maison. Mais si cela le réjouissait d'un côté, de l'autre, il s'affligeait et s'offensait de voir Landry répondre trop, selon lui, à ses nouvelles amitiés. Landry ne pouvait pas deviner cette jalousie de son frère, car, par nature, il n'était ni jaloux, ni envieux de rien ni de personne. Lorsque Sylvinet venait le voir à la Priche, Landry, pour le distraire, le conduisait voir les grands bœufs, les belles vaches et les grosses récoltes de la ferme du père Caillot. Sylvinet regardait tout cela avec indifférence et s'étonnait que son frère prît tant à cœur des choses qui ne lui étaient de rien. Il était ombrageux de tout et disait à Landry « Te voilà bien épris de ces grands bœufs. Tu ne m'as pas seulement demandé des nouvelles de notre vache qui donne du si bon lait, et qui me regarde d'un air tout triste, la pauvre bête, quand je lui porte à manger, comme si elle comprenait que je suis tout seul, et comme si elle voulait me demander où est l'autre Besson. » Ils disputaient ainsi sur rien, mais au fond de toutes ces paroles en l'air, il y avait d'une part l'enfant qui était content de travailler et de vivre n'importe où, et de l'autre, celui qui ne pouvait point comprendre que son frère puisse être heureux sans lui. L'affection asphyxiante que Sylvinet portait à son frère devint peu à peu si exigeante et son humeur si triste que Landry commençait à en souffrir et à ne pas se trouver heureux de le voir trop souvent. Il était un peu fatigué de s'entendre toujours reprocher d'avoir accepté son sort comme il le faisait. On aurait dit que Sylvinet se serait trouvé moins malheureux s'il avait pu rendre son frère aussi malheureux que lui. Landry comprit et voulut lui faire comprendre que l'amitié, à force d'être grande, peut quelquefois devenir un mal. Sylvinet ne voulut point entendre cela et considéra même la chose comme une grande dureté que son frère lui disait. Si bien qu'il commença à le bouder de temps en temps et à passer des semaines entières sans aller à la Priche, mourant d'envie pourtant de le faire, mais s'en défendant et mettant de l'orgueil dans une chose où jamais il n'aurait dû y entrer. Cette petite méchanceté fit beaucoup de peine à Landry. Lui, si sociable, souffrait, quand il venait, de devoir s'isoler à la ferme familiale pour faire plaisir à son frère. Surtout que chaque jour il devenait plus fort et plus assuré. Dans tous les jeux, il était le premier, le plus habile, le plus dégourdi. C'était donc un petit sacrifice qu'il faisait à son frère de quitter les joyeux gars de la Priche chaque dimanche pour passer tout le jour à la Bessonnière. Il s'y ennuyait terriblement, car il était impossible d'emmener Sylvinet jouer sur la place du village, ni même de se promener ici ou là. Son frère n'avait qu'une idée, celle de l'aimer uniquement et d'en être aimé de même. Il le forçait à le suivre dans leurs endroits, comme il disait, à savoir dans les recoins et cachettes où ils avaient été s'amuser à des jeux qui n'étaient maintenant plus de leur âge. Ces amusements-là n'étaient plus du goût de Landry, qui maintenant pratiquait ou aidait à pratiquer la chose en grand, et qui aimait mieux conduire un grand charroi à 6 bœufs que d'attacher une petite voiture de branchage à la queue de son chien. Il aurait préféré aller se mesurer avec les forts gars de son endroit, jouer aux grandes quilles, vu qu'il était devenu adroit à enlever la grosse boule et à la faire rouler à point à 30 pas. Quand Sylvinet consentait à le suivre, au lieu de jouer, il se mettait dans un coin sans rien dire, tout prêt à s'ennuyer et à se tourmenter si Landry avait l'air de prendre au jeu trop de plaisir et d'enthousiasme. Enfin, Landry avait appris à danser à la Priche. Ce goût lui était venu tard, à cause que Sylvinet ne l'avait jamais eu, mais il dansait déjà aussi bien que ceux qui s'y prennent dès qu'ils savent marcher. Il était estimé bon danseur de bourrée à la Priche. Et même s'il n'avait pas encore de plaisir à embrasser les filles, comme c'est la coutume de le faire à chaque danse, il était content de les embrasser, parce que cela lui donnait l'impression d'être devenu grand. Sylvinet l'avait vu danser une fois, et cela avait été cause d'un de ses plus grands dépits. Il avait été si en colère de le voir embrasser une des filles du père Caillot qu'il avait pleuré de jalousie et trouvé la chose tout à fait indécente. Ainsi donc, chaque fois que Landry sacrifiait son amusement à l'amitié de son frère, il ne passait pas un dimanche bien divertissant. Et pourtant, il n'y avait jamais manqué, estimant que Sylvinet lui en saurait gré, heureux finalement de faire plaisir à son frère. Aussi, quand il vit un dimanche que son frère avec qui il s'était disputé pendant la semaine avait quitté la maison exprès pour ne pas se réconcilier avec lui, il fut profondément peiné et, pour la première fois depuis qu'il avait quitté sa famille, il pleura à grosses larmes et alla se cacher pour ne pas montrer son chagrin à ses parents. Pourtant, si quelqu'un aurait dû être jaloux, c'était bien lui. Sylvinet était le mieux aimé de la mère. Et le père Barbeau, même s'il préférait secrètement Landry, montrait à Sylvinet plus de complaisance et de ménagement. Ce pauvre enfant, étant le moins fort et le moins raisonnable, était aussi le plus gâté, et l'on craignait davantage de lui faire de la peine. Il avait le meilleur sort, puisqu'il était dans la famille et que son Besson avait pris pour lui l'absence et la peine. Pour la première fois, le bon Landry se fit tout ce raisonnement et trouva son Besson tout à fait injuste envers lui. Après qu'il eut bien pleuré, il s'arrêta à écouter quelqu'un qui pleurait aussi pas loin de lui et qui causait tout seul, comme c'est assez la coutume des femmes de campagne quand elles ont un grand chagrin. Landry comprit bien vite que c'était sa mère et il courut à elle. « Hélas, faut-il, mon Dieu, disait-elle en sanglotant, que cet enfant-là me donne tant de soucis. Il me fera mourir, c'est bien sûr. Est-ce moi, ma mère, qui vous donne du souci ? S'exclama Landry en se jetant à son cou. Si c'est moi, punissez-moi et ne pleurez point. Je ne sais en quoi j'ai pu vous fâcher, mais je vous en demande pardon tout de même. » À ce moment-là, la mère comprit que Landry n'avait pas le cœur dur comme elle se l'était souvent imaginé. Elle l'embrassa bien fort et, sans trop savoir ce qu'elle disait, tant elle avait de peine, elle lui dit que c'était Sylvinet et non pas lui dont elle se plaignait. Que, quant à lui, elle avait été parfois injuste et qu'elle lui en faisait réparation. Sylvinet l'inquiétait grandement. Il était parti comme un fou sans rien manger avant le jour. Le soleil commençait à descendre et il ne revenait pas. On l'avait vu à midi, du côté de la rivière, et puis plus rien. Finalement, la mère Barbeau craignait qu'il ne s'y fût jeté pour finir ses jours.